Bonjour. Vous allez entendre mon rhume un petit peu ce matin, je suis désolé. Et puis on va laisser le son amplifié ce matin, justement pour éviter que je perde la voix pendant la première partie. Qu'il me reste un peu de voix tout à l'heure. Alors, on est dans le cours « La Bible, livre humain ou divin » à la leçon 3. Et puis, si vous désirez recevoir les notes par courriel, je me répète toujours, il y a la liste là-bas, il y a à l'entrée, vous avez simplement inscrit votre adresse courriel, vous allez recevoir ça le vendredi au plus tard. Et donc, vous pouvez décider de lire les notes à l'avance, ça me convient, ça fait des fois des discussions un peu plus profondes. Et puis c'est ça, vous pouvez juste prendre une copie des notes ce matin déjà si ça vous intéresse. Je m'appelle Yannick Etier, on va aller ensemble dans un mot de prière pour commencer. Mais Père éternel, on veut t'adorer ce matin parce que tu es Dieu, parce que tu règnes dans les cieux et sur la terre, Seigneur. Tu es notre Créateur, notre Bienfaiteur, l'auteur de cette vie, l'auteur de cet univers. Tu es celui qui nous donne la vie, non seulement la vie physique, mais la vie spirituelle, celui qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui nous conduit. Tu es celui qui console nos âmes, celui qui nous fait grandir, celui qui nous reprend, nous corrige. Lorsqu'on a besoin, Seigneur, d'être corrigé, même parfois d'être châtié, Seigneur. Père, on veut te demander de venir bénir cette rencontre ce matin. Ce rassemblement de ton Église, de ton peuple, viens, Seigneur, bénir non seulement l'enseignement, mais chacun des échanges qu'on va avoir les uns avec les autres, qu'on puisse s'accueillir les uns les autres, Seigneur. Être là les uns pour les autres. Et ici au milieu de nous, ce matin, il y a des visiteurs, des gens qui se sentent un peu étrangers. Seigneur, donne-nous d'avoir des yeux pour les voir, des bras pour les accueillir, des oreilles pour les écouter, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Ah, une boîte de Kleenex qui est apparue pendant la prière. Pardon? Dieu est bon, souvent sa bonté se manifeste à travers des gens, n'est-ce pas? Hébreux 1:1-4. Alors, on est vraiment toujours dans la Bible. On est dans la première partie du cours. On est en train de voir ensemble comment est-ce que la Bible parle d'elle-même, comment les Écritures saintes parlent d'elles-mêmes, et donc généralement comment les chrétiens voient les Écritures. D'accord? Et puis, dans la deuxième partie du cours, au milieu de la session, on va aller davantage dans la défense des saintes Écritures sur des questions assez contemporaines, par exemple avec toute la transmission à travers les siècles, validité des manuscrits, la présence de miracles, de surnaturel, est-ce que ça fait qu'on devrait voir la Bible comme une mythologie ou quelque chose, d'accord? Ça va être pour la deuxième partie du cours. Hébreux 1:1-4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu, ce passage-là? On va y revenir, d'accord? Gardez ça à l'esprit. Dans quelques instants, on va y revenir, mais on va introduire un peu cette question de la suffisance et de la clarté des Saintes Écritures pour commencer. Kevin DeYoung, dans son livre, c'est basé sur deux livres, le cours, là, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais Kevin DeYoung, dans son livre, pose la question, est-ce que vous avez des fois l'impression, en étudiant la Bible ou en suivant l'actualité, puis là, en vous posant des questions sur ce que la Bible répondrait à ces questions-là d'actualité, est-ce que vous avez le sentiment, des fois, que la Bible est un peu dépassée, qu'elle n'adresse pas des questions éthiques complexes? Si je voulais aller comme dans des grosses choses vite, toute la question transgenre, par exemple, puis tout ça, puis tout l'argumentaire qui dit oui, mais c'est mon ADN qui fait que je suis quelque chose d'autre que ce qu'il en paraît, de ce que je parais être, par exemple, et je dois être dans une quête, je dois me lancer dans une quête pour devenir celui que mes gènes me disent que je suis, mais en réalité, que vous ne voyez pas. Puis, à ce que la Bible adresse ça. Donc, des fois, je pense que les chrétiens, on arrive face aux Écritures, puis on se dit, il me semble que j'aurais aimé que la parole soit formulée autrement, qu'elle adresse des questions très, très contemporaines. D'autres fois aussi, ben, il y en a qui vont être mal à l'aise avec certaines positions que la Bible va prendre. Toute la conception de l'homme et de la femme, du rôle de l'homme et de la femme dans les Écritures, qui est pas mal clair quand même. Des fois, tu te dis, OK, ça aurait été plus simple à vendre, Seigneur, si plus simple de présenter ton évangile si ça avait été autrement, tu sais. Si c'est le cas, comme la majorité d'entre nous, si vous avez des fois des questionnements, des choses que vous auriez aimé comme ajouter ou voir formuler autrement ou retrancher, à ce moment-là, ce avec quoi vous luttez, c'est la suffisance des Écritures. Lorsqu'on a ces questions-là, c'est cette doctrine-là de la suffisance des Écritures qui est remise en question. Est-ce que la Bible est suffisante? Parfaitement, complètement, entièrement suffisante pour qu'on puisse être guidé pour répondre à nos questions. Généralement, si je vous demandais, est-ce que vous connaissez des attributs de Dieu? On va faire le test vite. Si je vous parle des attributs, vous savez c'est quoi? Les qualités. Qualité de Dieu. Nommez-moi vite comme ça, 2-3 attributs de Dieu.
Sa sainteté.
Immuabilité ne change pas. Son omniprésence, il est présent partout. Un dernier. Son amour, d'accord. Ça serait un de ses... Dieu est amour, ça serait un attribut, oui. Sa toute-puissance, d'accord. Ça, c'est ses attributs. Alors, on est assez familier, lorsqu'on a commencé à étudier un petit peu la Bible, à connaître Dieu, avec les qualités de Dieu, les attributs de Dieu. Mais si je vous demandais, c'est quoi les attributs de la parole de Dieu? Quelles sont les qualités de la parole de Dieu? Là, peut-être que ça serait un petit peu moins clair dans votre esprit. Vous direz, bien, elle est vraie. Oui, c'est un attribut, elle est vraie. Alors, ce matin, on va voir ensemble quelques attributs. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va couvrir les 2 premiers cette semaine. Mais on va quand même vous présenter les 4, d'accord? Juste pour situer, puis que vous voyez un peu les nuances qu'il peut y avoir entre chacun. Avant de traiter plus spécifiquement seulement de la suffisance. Donnez-moi juste un instant. J'ai oublié de partir ma petite minuterie, là. C'est dangereux. Parce qu'on pourrait s'emballer et passer des heures là-dessus. Suffisance. La parole de Dieu contient... Il y a une petite faute ici, la suffisance. La parole de Dieu contient tout ce qui est nécessaire à notre connaissance du salut et de la vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle révélation. On va le développer, celle-là, ce matin, d'accord? Clarté. La parole de Dieu est claire et accessible à l'ensemble des chrétiens dans tout ce qui est nécessaire au salut en Jésus-Christ et à la vie chrétienne. Sa compréhension n'est pas réservée à une élite spirituelle et cléricale. Ça aussi, on va le couvrir ensemble ce matin. Vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. C'est peut-être clair, mais ce n'est pas si évident que ça. Je pense que des fois, chacun d'entre nous, on peut douter de la clarté de la parole de Dieu. Autorité. La Bible détient l'autorité finale en termes de vérité. Ni la science, ni l'Église, ni la tradition n'ont préséance sur elle. Nécessité. La parole de Dieu est nécessaire à la connaissance véritable de Dieu, de l'être humain et du moyen de salut. La révélation générale, telle qu'observée dans la nature et la conscience humaine, ne saurait être suffisante. Alors, en théologie, on parle généralement de révélation générale, révélation spéciale. Il y a d'autres manières aussi de les appeler, mais on va dire, par exemple, qu'en observant un coucher de soleil, en regardant l'humanité, en regardant des fois des actes de bonté, de compassion, ces choses-là nous disent qu'il y a un créateur, il y a un designer, il y a un concepteur derrière la patente. On va parler en général de révélation générale dans ce cas-là. Puis lorsqu'on va vers la parole de Dieu, on va parler de révélation spéciale. Donc, elle est spécifique, elle est à un endroit précis. Dieu a littéralement parlé à travers ça, d'accord? Et tout ce qu'on dit avec la nécessité, c'est que la révélation générale n'est pas suffisante. Pour connaître Dieu, pour connaître le salut, on a absolument besoin de la Bible. Voici comment Kevin DeYoung résume ça. La parole de Dieu est finale, compréhensible, nécessaire et suffisante. D'accord? Ça, c'est 4 attributs, 4 qualités de la Bible que la Bible présente sur elle-même. C'est ce qu'on va observer lorsqu'on étudie l'ensemble des Écritures à différents endroits. On va aller voir ensemble certains passages ce matin. La doctrine de la suffisance des Écritures est aussi appelée parfois la perfection des Écritures. Et là, le prochain élément, il est super important. Il s'agit d'une doctrine essentiellement éthique, puisqu'elle implique que l'homme n'a aucune raison pour ne pas faire ce qui est saint, juste et droit. D'accord? Alors, la suffisance des Écritures a une implication essentiellement éthique. Ça veut dire qu'elle est suffisante pour connaître ce qui est bien, pour connaître ce qui est saint, pour connaître ce qui est juste. Ça va? Par exemple, un autre passage qu'on aurait pu citer, 2 Timothée 3, 16, 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, mais pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Les Saintes Écritures sont suffisantes pour savoir en toute chose qu'est-ce que je dois faire. Si je crois dans la suffisance des Écritures, la situation éthique que j'ai soulevée au début du cours, par exemple, toute la question transgenre actuellement, mais je vais chercher dans les Écritures, même s'il n'y a pas une entrée encyclopédique avec comme titre « transgenre », je vais chercher dans les Écritures des principes, des préceptes qui vont me permettre de développer une conviction éthique sur cette question-là. D'accord? Un des pères de l'Église, 296 à 373 après Jésus-Christ, Athanase a écrit « Les Écritures sacrées et divines sont suffisantes pour exposer la vérité. » Et ce que nous sommes en train de dire ici ce matin, c'est que nous croyons, 2000 ans après Athanase, bientôt, 2000 ans après Athanase, nous croyons que c'est tout à fait vrai encore. On ne croit pas que la science aurait démontré que les Écritures ne sont pas suffisantes. On ne croit pas que l'être humain a évolué dans sa compréhension des choses de telle sorte à ce que les Écritures ne soient plus suffisantes. Et moi, je vous dis que ce n'est pas parce que vous allez dans une église chrétienne que cette église-là croit que les Écritures sont suffisantes. D'accord? Je ne veux pas pointer personne, ce n'est pas ça mon intention. Je veux juste aiguiser votre discernement. D'accord? Et ça ne va pas nécessairement de soi. Ça va de soi en général pour le christianisme. On va voir tantôt des nuances avec d'autres mouvements. Mais ça va de soi pour l'ensemble du christianisme et à travers l'histoire aussi. Mais il y a des courants, et de plus en plus des courants plus libéraux qui vont dire non, les Saintes Écritures ne sont pas suffisantes. Alors c'est ça, la question dans le fond que la question que Kevin DeYoung soulevait au début, c'est ça c'est la théorie. En pratique, est-ce qu'on croit vraiment que la Bible est suffisante? Ou est-ce qu'on a l'impression qu'on a besoin d'un petit plus? Moi je lis la Bible, mais je lis toujours trois ou quatre autres livres en même temps que je lis la Bible. Pas en même temps, vous comprenez? Mais je suis toujours en train de lire un paquet de trucs. Mais lorsque je suis en train de lire d'autres trucs, puis j'essaie de lire large, d'accord? Donc, des auteurs chrétiens, mais j'essaie aussi de lire des classiques, de suivre ce qui se passe dans l'actualité au niveau de la pensée contemporaine, tout ça. Et puis, dans mon expérience pastorale, par exemple, on rencontre des situations en counseling, des difficultés, tout ça. Puis, à un certain moment donné, tu te dis, oui, mais là, ça n'a pas l'air de produire de changement, cette histoire-là. Donc, est-ce que lorsque je vais aller faire des lectures extérieures, je suis en train de chercher le petit plus qui me manque pour réussir à compléter ça? Dans notre famille d'église, ça a été un débat. J'ai le débat des fois avec des pasteurs même. D'accord? Oui. Bien, peut-être l'exemple que je donnais tout à l'heure, là, tu me diras si c'est juste le rappeler, puis tu me diras si c'est assez clair. Par exemple, sur toute la question transgenre, un individu qui va m'arriver puis qui va dire, mais écoute, premièrement, tu peux pas juger mon expérience parce que depuis l'âge de 5 ans, je sais que je suis pas un gars, admettons. Je sais que je suis une fille, même si j'ai un corps de gars. Puis à quelque part, je veux dire, je ne suis pas dans sa tête, tu sais. S'il me dit qu'il vit depuis l'âge de 5 ans, avant même qu'il entende parler de toutes ces questions-là, lui, il dit, regarde, ça a toujours été quelque chose de clair dans mon esprit. Bon, mais là, ça peut me déstabiliser. Puis là, je dis, OK, je veux pas t'accuser de mensonge. Tu n'es peut-être pas à une étape non plus où je pourrais dire que la société t'a conditionné à dire que tu n'es peut-être pas un gars, mais tu es peut-être une fille ou peu importe, là, vice-versa. Ça peut être troublant lorsque tu abordes toute cette question-là. Puis là, tu dis, Bon, est-ce que la Bible va m'aider à savoir comment conseiller cette personne-là pour savoir ce qui est juste et droit à faire? Tu sais? Fait que ça serait un exemple, admettons. Tu vas arriver dans un couple, puis couple a des difficultés de communication depuis des années. Les deux sont super zélés pour le Seigneur. Moi, des gens là, que je rencontre là, le couple ne va pas vraiment bien au niveau de la communication, puis quand je les considère individuellement, les deux sont passionnés pour Christ. Tous les deux. Mettez-moi ensemble, puis boy, il y a des sparks à toutes les cinq minutes. T'sais. Je m'excuse, il y a des étincelles à toutes les cinq minutes. Est-ce que la Bible va me donner les outils ou est-ce que je vais m'appuyer sur d'autres choses pour pouvoir y arriver, à les aider? Oui. Est-ce que ça répond à ta question? Je vais juste voir si je réponds à ça.
On se pose beaucoup de questions comme les questions que je voulais poser, c'est que je ne veux pas t'accuser de marteur, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ta tête. Par contre, à ce moment-là, quand on voit aux Écritures, on voit clairement, non, Dieu n'a pas créé
Mais donc, on va traiter, admettons ça, on va l'aborder avec les Écritures, puis on va dire, OK, avec ouverture, je veux dire, OK, peut-être que l'Église, à travers l'histoire, réfléchit à travers des catégories qui l'ont empêché de voir des choses que la Bible dit. Alors, par exemple, est-ce que ça se pourrait que quelqu'un soit né? Est-ce que ça pourrait être une des conséquences du péché? Tu sais, on va dire, par exemple, que la maladie, d'accord, pas sur le plan personnel, mais sur le plan de l'humanité, on va dire que la maladie, c'est une conséquence du châtiment divin. Dieu a décidé que la nature allait être déréglée, et donc ça, il va s'en suivre ça. Donc, est-ce que ça ne peut pas avoir atteint l'ADN, puis expliquer ça? Donc ça, c'est une possibilité. Mais je dois réfléchir avec les Écritures, parce que là, la question que je dois me poser après, c'est, OK, est-ce que, par exemple, est-ce que les Écritures vont me dire, dans ce cas-là, donc, ce serait correct moralement? Fait que là, tout le traitement en psychologie, où les gens vont dire, regarde, t'es un colérique parce que ton père était colérique. Moi, je peux vous rendre témoignage, alléluia, amen. Hein? Je veux dire, je suis colérique parce que la pomme n'a pas tombé tellement loin de l'arbre, je peux vous le dire. Fait que comment j'aborde ça, cette affaire-là? Comment je vais traiter mon problème? Est-ce que je vais le traiter comme un péché, comme un problème? Est-ce que les Écritures sont suffisantes, même dans ce cas-là, pour m'aider à marcher dans la justice? Donc, ce que cette doctrine-là dit, c'est que les Écritures sont suffisantes pour former l'homme, la femme de Dieu à marcher dans la justice. Et je vais travailler plus fort avec la parole pour aller chercher des réponses. C'est ce qui va faire que dans notre... Par exemple, là, je suis dans le counseling, d'accord, mais on pourrait aller ailleurs aussi, là. Mais dans le counseling biblique, par exemple, on a une approche qui est très centrée sur les Écritures. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ce qui se passe ailleurs, d'accord? Ça, c'est important de ce que je veux dire, là. Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas ailleurs. Comme je vous dis, je lis ailleurs. Mais si je décide d'adopter quelque chose qui ne vient pas de la parole, je m'assure que ce n'est pas sur ça que je m'appuie, mais sur les vérités de la parole, et je m'assure que ces éléments-là ne sont vraiment pas en opposition avec quoi que ce soit dans la parole. D'accord? Maintenant, on fait ça tout le temps. Okay? Dans le temps de Jésus, il marchait ou il montait à chameau. Moi, je suis venu ici en auto ce matin. Je ne m'en suis pas tenu au texte biblique. D'accord? Donc, on fait ça constamment, intégrer des éléments que l'humanité va découvrir au niveau de la science. Là, on est rendu comme à 4-5 mains. Donc, on le fait constamment. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire avec des domaines d'entraide ou de counseling ou des choses comme ça. Mais si je crois que la Bible est suffisante pour former l'homme, la femme de Dieu, à ce moment-là, je vais m'appuyer sur la Bible pour trouver des réponses premièrement et je vais aller travailler. Un autre domaine, c'est tout le domaine de la médication, par exemple. On sort beaucoup, beaucoup de médication. Ici, là, dans la salle, là, il y a 20% de la salle qui a pris ses médicaments ce matin, puis il y en a plusieurs qui c'était pour le cerveau, c'était pas pour ici. OK? Je n'ai pas de jugement contre ça. Mais là, ça règle des problèmes de comportement des fois. Fait que comment on va adresser ça lorsqu'on veut aider la personne à grandir? Fait qu'il y a moyen d'adresser ces questions-là comme il faut, d'avoir une bonne approche. Là, c'est sûr que je ne pourrais pas prendre toutes vos questions. C'est sûr, sûr. Je vais prendre Annie. Nommez-moi vos questions, là, puis on va voir comment. Annie, c'est quoi ton intervention? OK. Fait que j'ai répondu un peu à ça déjà. Ça va? OK. Excellent. On s'en vient là. C'est excellent. C'est là qu'on s'en va avec Hébreux. François? Oui, ça, je pense que oui. Donc, François dit, est-ce qu'il n'y a pas un manque de foi à dire, je vais aller chercher de la connaissance à l'extérieur de la Bible qui ne serait pas là, puis je vais confirmer après avec la Bible que c'est bon. Oui, je pense que ce ne serait pas la bonne approche. Je pense que ce ne serait pas la bonne approche. Mais ce n'est pas ça que moi, je voulais dire tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas que lorsque je lis, lorsque je côtoie les personnages bibliques, que ces gens-là vivaient dans un monastère, dans un vase clos, hors du temps. Jésus est le meilleur exemple, là, ça serait long de développer ça ce matin, mais Jésus, il y a beaucoup de choses que Jésus a enseignées qui reflétaient une pensée de son époque déjà, qui n'était pas là 400 ans plus tôt. En tout cas, pour ceux qui peuvent me suivre. Là. Donc, les chrétiens, les croyants vivent dans leur temps, puis ont les yeux ouverts. Et oui, des fois, je vais lire des choses ailleurs, puis je vais dire, boy, c'est tellement du gros bon sens, c'est évident. Mais si jamais je me dis ça serait un plus dans mon approche, je vais vérifier que ça se tient avec la Bible. Tu comprends? Fait que par exemple, puis des fois, c'est des choses simples. T'sais. En communication, on va parler d'écoute active, mais la Bible, elle parle d'écoute active tout le temps. C'est juste qu'elle n'appelle pas ça l'écoute active. T'sais. Fait que si de le mettre dans des termes contemporains, ça m'aide à comprendre des choses, je vais le faire. Je ne pourrais pas aller plus loin là-dessus, les amis. Il nous reste... Des bonnes questions, hein? La suffisance des Écritures. Intéressant quand la théologie vient nous chercher autant que ça, hein? OK. J'aime vraiment ce que Kevin DeYoung fait, puis ça va un petit peu dans le sens de ce que Richard Gauthier a soulevé ici comme idée. J'aime comment il adresse cette question-là, cette problématique-là, en se tournant vers Jésus. J'aime vraiment ça. On aurait pu l'aborder complètement autrement. J'aurais pu ce matin juste vous sortir 25 versets qui disent que la Bible est suffisante. D'accord? Mais en même temps, vous savez, lorsqu'on parle d'être centré sur l'Évangile, évidemment, l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Kevin DeYoung, ce qu'il fait ici, c'est qu'il dit, « Ouais, mais tu ne serais pas encore dans le cœur de la révélation si tu faisais juste sortir plein de versets où la Bible dit qu'elle est suffisante. Elle est essentiellement suffisante parce que tout a été accompli. » Donc, je suis au milieu de la page 2, je crois, 2 ou 3. 2, il faut avancer. « Pourtant, l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur n'est-elle pas entière et suffisante? Se pourrait-il qu'il y ait une relation étroite entre l'œuvre parfaite et complète de Jésus-Christ pour notre salut et la suffisance des Écritures? » Voici un angle intéressant pour adresser la question. Donc, il établit un lien entre l'œuvre de Christ puis la doctrine de la suffisance des Écritures. C'est pour ça qu'on vous a lu tout à l'heure Hébreux 1, les versets 1 à 4. Okay? Alors, si c'est plus frais à votre mémoire, peut-être juste les survoler pendant que vous m'écoutez là, pour le remettre en contexte. Le passage de la lettre aux Hébreux cité plus haut résume l'ensemble de la lettre. Dieu a parlé par son Fils Jésus-Christ et celui-ci est supérieur à toute autre personne, à toute autre institution, à tout rituel, à toute révélation, à toute rédemption, à tout salut. Tout dans ce passage conduit le lecteur à reconnaître qu'un nouvel ère a commencé avec Jésus-Christ, parce que celui-ci est l'agent final et supérieur de Dieu pour accomplir la révélation et la rédemption pour le salut des hommes. Donc, on fait un petit pas en arrière, puis vous allez voir après le lien évident avec la suffisance des Écritures, j'espère. L'auteur de la lettre aux Hébreux, en s'appuyant sur le psaume 2 et le psaume 110, d'accord, le passage, toute la vision qui nous est présentée de Jésus-Christ dans la lettre aux Hébreux, repose essentiellement déjà sur des textes prophétiques dans l'Ancien Testament. Vous pourrez aller relire le psaume 2 si ça, vous n'êtes pas familier avec cette idée-là, psaume 110. Mais lorsque tu les lis en connaissant Jésus-Christ, tu dis, OK, ouais, c'était évident, il nous annonce à Jésus. Nous présente cette affirmation. Le Fils est l'héritier de toutes choses. Le Fils est le créateur de toutes choses. Le Fils soutient toutes choses. Le Fils est la révélation de Dieu. Le Fils a accompli la purification pour nos péchés. Le Fils a pris place, c'est-à-dire qu'il règne actuellement, il est assis. Le Fils est supérieur aux anges. Ainsi, nous pouvons dire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est supérieur parce qu'en lui, nous avons le salut entier et final, tout comme la révélation de Dieu entière et finale. Et donc, l'idée que les Écritures nous donnent, mais que Kevin DeYoung souligne, c'est cette idée que non seulement Jésus est venu accomplir le salut parfait, mais Jésus est la révélation parfaite de Dieu. D'accord? Lorsqu'on parle de la suffisance des Écritures, on est en train de dire, est-ce que Dieu s'est parfaitement fait connaître à travers sa parole, et sa parole suffit à notre marche, à notre vie chrétienne? Et donc, l'approche que Kevin prend ici, c'est tout simplement de dire, on va établir le lien entre les Écritures et Jésus, parce que Jésus est non seulement notre salut parfait complet, mais il est aussi la révélation complète de Dieu. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre révélation de Dieu à attendre que la personne de Jésus-Christ? Et c'est ça qui troublait beaucoup son auditoire lorsque Jésus était là, puis il disait des choses comme, « Ah, mais Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Il n'y a pas eu de prophètes qui ont dit ça, vous comprenez? Un prophète aurait pu dire, « Si tu m'as entendu, tu sais ce que le Père attend de toi. » Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. Il dit, « Philippe, tu veux que je te montre le Père, mais tu m'as vu. Tu as vu le Père. » Donc, est-ce que j'ai une autre révélation de Dieu à attendre que la personne de Jésus-Christ? Si la réponse, c'est non, ça se peut bien qu'on n'ait pas d'autre révélation à attendre ou à aller chercher à l'extérieur que cette parole qui nous fait connaître Dieu. Toutes les saintes Écritures parlent de lui et pointaient dans cette direction, et tout a été accompli en lui. Après Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grande et plus parfaite révélation de Dieu. Nous n'avons donc aucun besoin d'autres prophètes pour nous faire connaître Dieu et sa volonté, ni Joseph Smith, ni Mahomet, ni aucun autre prophète. Si Christ est vraiment l'empreinte de Dieu, tel que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous le dit. Nous ne devons pas séparer la rédemption de la révélation, il y a une faute ici. Tous deux ont été parfaitement accomplis en Jésus-Christ. Fait que dans un sens, la Bible n'est pas Jésus, d'accord? La Bible, c'est un livre. C'est pas Jésus. Jésus, c'est une personne. Mais en même temps, les deux sont indissociables. Parce que Christ est la parole de Dieu. C'est par lui que Dieu parle. Et toute la Bible nous parle de Christ. D'accord? Donc, tu ne peux pas les dissocier, les deux. C'est impossible. Autrement, tu n'as pas compris le message. Est-ce que ça va, vous me suivez? Oui, il y a comme des points d'interrogation qui apparaissent dans vos visages. Ou une absence. J'ai l'impression que vous n'êtes pas nécessairement avec moi. Mais c'est peut-être moi qui ne suis pas clair, donc vous m'arrêtez, si vous allez. Vas-y, Richard. Dans Romains, oui. Ouais. Ouais. Tu veux le conduire vers Christ. C'est par lui qu'on va connaître Dieu. Absolument. Absolument. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. John Frame dit ça comme ça. Rien ne peut être ajouté à cette œuvre de rédemption et rien ne peut être ajouté à la révélation de cette œuvre de rédemption. Je ne sais pas si vous voyez le cercle, là. Je vais juste partir avec l'affirmation où je suis sûr que tout le monde est d'accord. Je suis sûr que ça, c'est clair pour presque tout le monde. Je vous connais au moins un peu, chacun d'entre vous. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre que Christ a fait pour notre salut. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est clair, c'est complet. Ça va? Toutes les Écritures parlent de Christ, pointent vers ça. Toutes les rédemptions, messages de rédemption dans l'Ancien Testament, les sacrifices, mais ça pointe toujours. Hein? Abraham, Dieu lui demande de sacrifier son fils, ça parle de qui? Ça parle de Christ qui s'en vient, d'accord? Donc, constamment, on pointe vers là. Qu'est-ce que la Bible, ou qu'est-ce que Dieu même, pourrait vouloir nous révéler d'autre que Jésus-Christ? Oui, vas-y, Célia. Oui. Oui, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire, Célia, je veux juste répéter. C'est bon, là, dans le sens que... Excellent. Tout à l'heure, j'ai dit que la Bible, c'est pas Jésus. Puis la Bible est là pour nous révéler toute la pensée de Dieu. La Bible parle des fois d'autre chose que Jésus. D'accord? Donc, ce n'est pas juste Jésus qui est au centre. C'est vrai. Mais lorsque Jésus a enseigné aux disciples, il leur a dit, « Toutes les Écritures parlent de moi. » Il est en train de dire que la clé pour comprendre la Bible, c'est lui comme personne. Et donc, si la Bible est là pour me faire connaître la pensée de Dieu, la clé pour connaître la pensée de Dieu, c'est Jésus-Christ. D'accord? C'est lui qui est au centre. Qu'est-ce que Dieu peut vouloir nous révéler d'autre que Jésus-Christ? Quand j'arrive dans l'Apocalypse, c'est tellement frappant de voir la place que Christ occupe, d'accord? Sur le trône lui-même. Donc, d'attendre une autre révélation en disant, ben j'ai la Bible, mais peut-être pas suffisante parce qu'il y a d'autres choses à aller chercher, ça fait vraiment pas de sens avec le message fondamental de la Bible. D'accord? Camille, tu avais un très, très bref. Vas-y. En fait, pour reprendre ce que tu dis, lorsqu'on va voir Dieu face à face, on va connaître comme on n'a pas été connu. Donc, il y a plus à connaître. On pourrait dire qu'il y a plus à connaître, d'accord? Mais lorsque vous lisez l'Apocalypse, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre à connaître. Il n'y aura pas une nouvelle éthique à connaître, une autre manière de vivre à connaître. C'est que je vais connaître encore mieux celui qui m'a sauvé, l'amoureux de mon âme, d'accord? C'est juste ça qui va changer. Fait que dans un sens, je pourrais dire, oui, Dieu peut nous révéler plus. Je veux dire, lorsque je vais être comme devant lui, tu sais, il va y avoir quelque chose de plus qui va aller là. 100% d'accord avec vous. Mais ce ne sera pas une nouvelle révélation. Vous comprenez? C'est juste qu'on va aller dans une meilleure compréhension de ce qu'il est. Donc, je ne vois pas qu'il va m'amener dans un autre cadre éthique, dans une autre manière de vivre, avec d'autres principes qui vont être différents. Est-ce que ça va? Oui? Un peu plus clair? Il faut filer, les amis, il faut aller plus vite un petit peu. Ainsi, Dieu parle encore aujourd'hui, mais il le fait par l'œuvre de son Fils. Il nous parle encore, mais ce qu'il nous dit n'est pas une nouvelle révélation, celle-ci est complète en Jésus-Christ. La parole de Dieu est suffisante parce que l'œuvre de Jésus-Christ est suffisante. Et lorsque je vais travailler avec des gens, par exemple, parce que peut-être là où vous allez vous dire, « Ouais, mais tantôt tu me donnais des exemples qui étaient comme ailleurs, puis je ne suis pas sûr que c'est aussi relevant. » Si je dois travailler avec quelqu'un qui se pose des questions sur son ADN, puis son identité, puis tout ça, je vais m'assurer d'aller travailler avec l'Évangile. D'accord? Fait que ça se peut qu'il y ait des questions scientifiques auxquelles je n'ai pas toutes les réponses. Ça, c'est possible. On a eu à conseiller, il y a deux ans, il y a quelqu'un qui venait ici, puis il était en transformation. Puis On s'est bien entendu, les pasteurs, que ce serait le dernier sujet qu'on aborderait avec lui ou elle. D'accord? D'abord, ces gens-là le mettent sur la table beaucoup plus vite que nous. Tu n'as pas besoin d'aller là. Ils le mettent trop vite, en fait. Ils ne donnent même pas le temps de te rendre à l'Évangile parce qu'ils veulent savoir si tu les rejettes dans, là où ils se sentiraient rejetés. Fait qu'on avait décidé, nous autres, ça va être le dernier sujet qu'on va aborder. Ce qu'on veut parler, c'est de ta réelle identité. Créature de Dieu, pécheur, besoin de salut par grâce. Après ça, les questions qui sont peut-être scientifiques, on les adressera plus tard. Mais est-ce que tu es prêt à cheminer avec nous, avec l'Évangile? D'accord? Est-ce que la parole de Dieu est suffisante pour m'aider à aider cette personne-là? C'est ça qu'on est en train de dire ici. John Frame écrit, au haut de la page 4, « L'Écriture est le témoignage de Dieu de la rédemption qu'il a accomplie pour nous. Une fois cette rédemption achevée, le témoignage apostolique complet, les Écritures sont complètes, nous n'avons plus à attendre de nouvelles révélations. » De manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaître la suffisance des Écritures nous permet de garder la tradition à sa juste place. Ça, c'est quelque chose d'important. Le christianisme, je vais le dire comme ça, là, entre guillemets, c'est une religion qui a 2000 ans d'histoire, mais qui puise des racines encore beaucoup plus loin que ça, jusqu'à l'origine des temps, n'est-ce pas? Et donc, la tradition devient importante. La suffisance des Écritures me permet toujours de dire, je veux honorer l'histoire, honorer mes prédécesseurs, honorer ceux qui m'ont précédé, mais je ne veux pas que cette tradition-là que j'ai héritée de mes pères vienne supplanter la parole de Dieu, d'aucune manière. C'est toujours la parole de Dieu qui va avoir préséance. C'est un des principes super importants de la réforme protestante du 16e siècle. D'accord? L'Église catholique est franchement à l'opposé complet de ça. Complètement à l'opposé de ça. D'accord? La tradition de l'Église est aussi importante que la Bible. On va voir, même ça va plus loin que ça encore. Donc, c'est le principe sur la scriptura de la réforme. Deux, parce que les Écritures sont suffisantes, nous n'enlèverons ni n'ajouterons rien à la parole de Dieu. Et elles sont suffisantes pour la marche chrétienne. Parce que la parole de Dieu est suffisante, nous pouvons avoir la conviction qu'elle suffit à toute la vie et la marche chrétienne. Ça ne veut pas dire que j'ai pas recours à la science, vous comprenez? Moi, là, si mon rhume ne part pas puis ça a l'air de se transformer en infection, ben, je ne vais pas dire que la parole de Dieu est suffisante pour traiter le virus que j'ai en moi. Non, je vais aller prendre des antibiotiques. Vous comprenez? Ouais, je vais prier, par exemple, parce que je crois qu'au-dessus de ça, la parole de Dieu est claire. C'est lui qui fait le lascar. C'est lui qui a la décision. Même si je prends toutes les antibiotiques de la terre, s'il a dit « c'est demain que ça se passe, mon homme, tu te présentes devant moi, c'est là que ça va se passer. » Ça finit là. La suffisance des Écritures nous invite à ouvrir la Bible pour entendre la voix de Dieu nous parler. Et donc, quotidiennement, c'est cette voix-là que je veux entendre qui va me guider. J'ai pas besoin d'avoir des enseignements d'hommes extérieurs aux Écritures pour me guider. Toutes les lectures que je fais à l'extérieur, toutes les penseurs que j'admire, toutes ces idées-là, sont et doivent demeurer extrêmement secondaires. D'accord? C'est super important. Puis on vit à une époque de culte de la personnalité. Je suis le premier à suivre plein de personnes sur Internet. Il y a des gens que j'admire tellement. Par la grâce de Dieu, on a pu en faire venir plusieurs ici. Puis ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent doit venir dans la place de la parole. La parole de Dieu est claire. Et ça, c'est super important. C'est encore une des compréhensions qui nous vient de la réforme protestante. Puis c'est encore plus, je vous dirais que c'est encore plus remis en question. Il y a plus d'amis non-chrétiens qui vont vous confronter avec ça. Beau passage de Deutéronome 30, versets 11 à 14. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » D'accord, c'est la loi de Moïse, on est dans l'Ancien Testament. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Est-ce que la volonté de Dieu est obscure et inconnue, puis on a besoin de quelqu'un qui nous fasse connaître ça? C'est une connaissance mystérieuse, une nose que personne n'a. puis on a besoin d'une révélation. Non, il dit, non, non, il est tout prêt, tout prêt. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vous avez des amis qui vous ont dit, « Ouais, mais ça, c'est ton interprétation. » Non? Ça, je vous dis, ça, c'est très, très concret. « Ouais, mais ça, c'est votre lecture de la Bible. » J'ai eu un échange sur Facebook il y a 2 semaines avec une chrétienne évangélique. Puis elle m'écrit, elle dit, « Suivant la lecture baptiste, bien sûr. » Ah, OK. Fait que, tu vois, ça c'est ton interprétation. Cette affirmation lancée tant de fois n'est qu'un moyen d'échapper à la discussion. Elle reflète bien souvent la vision que les gens se font de la Bible, mais aussi de la spiritualité en général. Donc, c'est pas une question, un commentaire à mépriser. C'est pas juste que les gens ne veulent pas avoir un vrai débat, une vraie discussion. C'est vraiment ce qu'ils croient. Ce qu'ils croient, c'est que connaître Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment accessible. Et donc, la meilleure manière de s'en tirer aujourd'hui en 2014, c'est d'y aller avec ce qu'on ressent chacun d'entre nous sur Dieu. Fait que Guillaume, ce que tu ressens aujourd'hui, qui est le bien que tu devrais faire, de toute façon, puisque c'est pas un sujet qu'on peut mettre plain and clear sur un tableau puis dire « Dieu veut que tu fasses ça », puisque ça ne peut pas être clair comme ça, ben vas-y avec ce que tu ressens, c'est ça ta vérité à toi. Et ça, ça se transpose lorsqu'on aborde les Écritures, mais ça, c'est ton interprétation à toi. Puis des fois, ça va même venir dans le dialogue entre des évangéliques. Oui. Oui, je ferais une nuance, par exemple. Samuel soulève quand même un bon point. Il va dire, par exemple, la subjectivité. C'est un peu ça que tu fais allusion, là. Lorsque les gens vont dire, je me sens appelé à tel ministère. Ça peut être ça. Ça peut être une approche qui est très, très feeler. Puis dans le fond, tu y vas comme tu le feels. En même temps, je crois qu'il y a des appels que Dieu place. Il y a des dons que Dieu donne. Puis ça va se valider justement avec l'Église. C'est pour ça que l'Église est tellement importante. Ok, tu as ça sur ton cœur. Par exemple, Paul va dire, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge d'ancien, il aspire à une charge honorable. Donc, il aspire, c'est dans ton cœur, c'est quelque chose qui est là. On va valider si c'est un appel qui vient de Dieu ou si c'est purement émotif. Très brièvement, Paul. C'est un bon commentaire, j'arrive là. Okay. Alors, lorsqu'on dit que la parole de Dieu est claire, est-ce qu'on est en train de dire qu'elle est toujours claire? Moi, je n'ai pas la date du retour de Jésus, en tout cas. On arrive à ça. Super bonne intervention, Paul. On arrive à ça, d'accord? La doctrine de la clarté des Écritures. Voici comment elle est présentée dans la Confession de foi de Westminster. Puis ça va clarifier la question de la clarté. « Toutes choses dans l'Écriture ne sont pas accessibles et claires pour tous. Pourtant, les choses qui sont nécessaires à notre connaissance, à notre foi et à notre obéissance en vue du salut sont si clairement exposées et présentées en différents endroits de l'Écriture que non seulement les gens instruits, mais aussi ceux de peu d'instruction, par l'usage de moyens ordinaires, peuvent les comprendre suffisamment. » C'est très bien dit, hein? C'est très bien dit, hein? Et donc, ce qu'on est en train de dire par la doctrine de la clarté des Écritures, c'est que les Saintes Écritures sont suffisamment claires pour que quelqu'un d'ordinaire, par des moyens ordinaires, et là, je ne parle pas de la conversion, ça, c'est un moyen surnaturel, peut comprendre ce qu'elle dit sur Dieu, sur l'être humain, sur le fait qu'on est pécheur, sur ce que Dieu attend de l'homme, d'accord? De la femme dans sa marche chrétienne. Tout ce qui est nécessaire à marcher dans la foi est absolument clair. D'accord? Et c'est ça qu'on veut dire par la clarté des Écritures. On n'est pas en train de dire que chaque verset est toujours clair. Non, non, pas du tout. Il y a beaucoup de sujets qui demandent beaucoup d'études sérieuses. Voici les nuances que Kevin DeYoung relève de cet article. Certaines portions des Écritures sont plus claires que d'autres. C'est ça qu'ils sont en train d'affirmer dans cette confession de foi. L'essentiel à notre salut et notre vie chrétienne est clair. Bien que les doctrines ne soient pas toutes claires en tout endroit des Écritures, elles sont toutes rendues claires à un endroit ou l'autre de la Bible. Lorsqu'on parle des doctrines essentielles, des fois, ce n'est pas clair là. Par exemple, toute la question de la persévérance finale des saints, ou ce qu'on appelle des fois l'assurance du salut, pas toujours clair. Lorsque tu étudies l'ensemble, à un endroit ou l'autre, ça va devenir pas mal clair. Ce qui est nécessaire au salut est accessible à tous par des moyens ordinaires d'étude de la Bible. C'est-à-dire que là, c'est toute la question, est-ce que c'est une connaissance qui est réservée à une élite? D'accord? Faut-tu avoir fait un bac en théologie pour pouvoir comprendre ces choses-là? Ben, il semble que si tu fais un bac en théologie, bien souvent, finalement, après, tu es sûr qu'il n'y a rien de clair. D'accord? Je ne parle pas dans un bon séminaire, là, mais je parle si vous allez faire des cours à l'université en théologie, vous allez voir qu'il n'y aura plus rien de clair après, parce qu'ils vont vous dire que tu ne peux rien comprendre dans ce qui est écrit là. Parce que le mot « bonjour » ne veut peut-être pas dire « bonjour ». Les éléments essentiels de la Bible ne peuvent peut-être pas être compris parfaitement, mais ils peuvent l'être suffisamment. D'accord? Donc, on revient un petit peu aussi à la question de la suffisance des Écritures. Maintenant, juste pour vous montrer que ce n'est pas une question qui est nécessairement évidente. Pourquoi j'ai une pause ici? Il faut que j'accélère beaucoup, les amigos. J'ai arrêté mon chose par erreur. Je ne sais pas comment. Par exemple, l'objection mystique. Cette objection affirme que nous ne pouvons définir Dieu, que prétendre le connaître clairement par les saintes Écritures en revient à diminuer Dieu. Mais des fois, vous allez jaser avec quelqu'un et ils vont dire, « Oui, mais si tu penses que tu peux connaître Dieu, dans le fond, c'est qu'il ne peut pas être Dieu. S'il est Dieu, c'est qu'il est inaccessible à l'intelligence humaine. » Fait que si dans ta religion, dans tes croyances, vous dites que vous savez qui est Dieu et comment est Dieu, c'est sûr que ça ne peut pas être Dieu. Puis je pense que ces gens-là raisonnent vraiment comme ça. Ce n'est pas nécessairement juste pour tasser la conversation. D'accord? Est-ce que Dieu s'est révélé? Justement parce qu'on ne peut pas le connaître par nous-mêmes, à travers la révélation générale. Est-ce qu'on avait besoin de la révélation spéciale des Écritures? Ça, c'est l'angle que je prendrais pour discuter. Ils vont dire « la vérité ne peut pas être résumée dans des mots ». Fait que là, on arrive avec la pensée post-chrétienne, si vous êtes familier un petit peu avec ça, la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Bon, c'est pas très post-chrétien comme citation, mais ça représente une pensée très contemporaine. Et là, on a besoin de discuter avec les gens. Tu sais, ben, je vais te dire une vérité, si mon point vient sur ton nez, ça va faire bobo. Est-ce qu'on peut discuter de ça ou tu veux qu'on le mette à l'épreuve? Je ferai ça avec un ami, vous comprenez? Mais pensée postmoderne, tu sais, il n'y a plus grand-chose de vrai. Ah, il y a des choses qui demeurent très, très vraies encore. On peut les tester ensemble si tu veux. Ça fait longtemps que je rêve de faire ça. L'objection catholique, bien que l'Église catholique romaine adhère historiquement à la doctrine protestante de l'inspiration et de l'inhérence des Écritures. Alors, c'est important. Avec l'Église catholique, on va être tout à fait d'accord sur la notion d'inspiration des Écritures. C'est inspiré par Dieu, sans erreur aussi. Là où on diverge, c'est sur la clarté. Pour l'Église catholique, ça prend la Sainte Église catholique romaine pour comprendre ce texte-là à travers le pape et à travers le clergé. Donc, c'est la même Bible, inspirée par Dieu, suffisante, mais mystérieuse. Ça prend le magistère pour pouvoir éclairer les Écritures. Autrement, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Ce qui fait que mon grand-père, lorsqu'il a su que ma mère commençait à lire la Bible, la première chose qu'il a dit, c'est « t'es pas prêtre, tu vas devenir folle si tu lis ça ». D'accord? Bon, mais c'est ça que l'Église catholique croit, c'est ce qu'elle enseigne. Et c'est ce qui faisait que, traditionnellement, ben, la messe se faisait en latin, puis on lisait le texte en latin, puis personne ne comprenait le latin, mais de toute façon, ils ne pouvaient pas le comprendre, ils seraient tous devenus fous s'ils l'avaient entendu. D'accord? Mais là, on est après la réforme protestante. Bon, j'ai une belle citation à la fin. L'objection pluraliste, cette objection argumente, c'est du vieux français argu, que notre prétention que les saintes Écritures sont claires est anéantie par la multitude de compréhensions et d'interprétations de la Bible au sein même des chrétiens. Ouais, mais les Pentecôtes, les Baptistes, les Frères, les Presbytériens, les Réformés, vous n'arrivez même pas à vous entendre, donc c'est clair que ce n'est pas clair. On ne dit pas que c'est clair tout le temps. Le point que Paul soulevait tout à l'heure. On dit que c'est clair et suffisant dans ce qui est essentiel. Vous comprenez? Ce qui fait que je vais rencontrer un frère qui est dans une autre dénomination, comprend bien l'Évangile, je ne vais pas remettre en question son salut pour autant. D'accord? Lorsqu'il y a une bonne compréhension de l'Évangile qui va être là, évidemment. Revenons à notre passage de Deutéronome 30, cité plus haut. Il est intéressant d'observer que ce passage affirme que la loi de Dieu est à notre portée, n'est pas au-dessus de nos forces. Et peut-être que là, vous pouvez penser à Paul qui dit que ouais, mais la loi, c'est impossible pour nous de l'observer. D'accord? Paul qui dit ouais, mais la loi était justement là pour montrer qu'on n'est pas capable. Lorsque Moïse fait cette déclaration-là, à la fin de son ministère, puis il veut dire à Israël, « Je vous ai donné la loi, Dieu vous a donné la loi à travers moi, elle est à votre portée. » Il est en train de dire, « Pour connaître et comprendre ce que Dieu attend de l'homme. » Moïse aurait pu faire le même discours que Paul après, puis dire, « Mais ma gang de tableaux, vous allez tellement désobéir souvent, que n'oubliez pas les sacrifices aussi, vous allez en avoir besoin pas mal. » Et donc, c'est clair aussi, comment est-ce qu'on se repent lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. D'accord? Alors, il n'y a pas de contradiction entre Paul et Moïse ici dans ce qu'ils sont en train d'enseigner. On termine bientôt. Ce que Moïse affirme par contre, c'est que le commandement de Dieu est accessible, compréhensible, afin que l'homme de Dieu puisse en être éclairé et guidé. Et là, on a plusieurs citations, je ne vous les lirai pas tous, d'accord? Mais c'est la pensée de Jésus, c'est la pensée de Jean, c'est très clair, dans les psaumes aussi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, elle est claire et elle éclaire, d'accord? Jean Calvin le dit comme ceci. Dieu ne nous propose pas d'obscures énigmes pour garder notre esprit dans la confusion et pour nous tourmenter par toutes sortes de difficultés. Mais il nous enseigne familièrement tout ce qui est nécessaire suivant la capacité de son peuple. Alors, au tout début de la réforme protestante, on a un héros de la foi qui s'appelle William Tyndale, qui est décédé étranglé, puis son corps a été brûlé. Il avait fait la cause de sa vie de traduire les Saintes Écritures dans la langue du peuple, parce qu'il était convaincu que la Bible est claire. Et donc un jour, il nous est rapporté qu'il aurait répliqué ceci à un théologien, un érudit qui était contre son projet. Il aurait dit, « Si Dieu épargne ma vie pour plusieurs années, je ferai en sorte qu'un jeune garçon qui conduit un attelage puisse connaître les Écritures aussi bien qu'un érudit. » Et donc, c'est ça que les pionniers pour l'Évangile au Québec ont fait. Ils allaient de porte en porte, ils allaient vers les Québécois, puis ils leur disaient, « Tiens, veux-tu une Bible? On va étudier la Bible ensemble. »« Oui, mais je ne peux pas lire ça. » »« Qui t'a dit que tu ne pouvais pas lire ça? » »« Lis-la. » Moi, je dis que 99% du temps, on va comprendre la même affaire dans ce texte-là, si on le lit tous les deux. Parce qu'on croit dans la clarté des Écritures. Alors, ce matin, on a vu ensemble que les Écritures sont suffisantes et que la parole de Dieu est claire. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, merci pour ta sainte parole. Ta sainte parole, Seigneur, qui est suffisante et claire à ma foi, à ma marche chrétienne. Et si seulement, Seigneur, je pouvais m'en tenir à tout ce qui est clair là-dedans et croire profondément dans mon cœur que c'est suffisant pour mon bonheur, à tous les jours, je chercherais de toutes mes forces à lui obéir. Merci, Seigneur Jésus, pour ton œuvre parfaite de salut, parce qu'aucun d'entre nous n'est suffisant en lui-même pour lui obéir parfaitement à cette parole. Mais c'est en toi, Jésus-Christ, que nous trouvons la consolation, le pardon, et la force pour marcher selon ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.